Et c'est le temps maintenant de passer à l'économie. Oui, notre chronique économie avec Michel Poitevin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Et ben, un sujet, je pense, qui l'intéresse beaucoup, l'agrandissement du projet de Stade Jarry. Alors, allons-y. D'abord, l'Omnium Banque nationale bat son plein et un débat a été lancé ou relancé. On a vu ça ce week-end, hein, la modernisation des installations.
Oui, bonjour, M. Chabot.
Bonjour, ben oui, bonjour.
Disons, c'est le début ou le renouveau d'une saga qui est pas près de se terminer, je dirais peut-être malheureusement. Tennis Canada je ne sais pas si on a dévoilé, mais en tout cas, ça a filtré leur coût d'un projet. Là, selon l'Association des professionnels de tennis, notre stade Jarry n'est plus adéquat pour accueillir un tournoi, le Masters 1000, donc cette catégorie de tournoi. Et donc, ça prend un stade plus grand, possiblement des loges, modernisation, etc. Donc, Tennis Canada a un projet qui est évalué à 400 millions de dollars. Avec ça, on agrandit, on crée de nouveaux terrains. On agrandit le terrain de Tennis Canada, mais non seulement ça, on démolit le stade actuel. On en construit un nouveau avec un toit rétractable. Donc, il y a tout pour la modique somme de 400 millions de dollars. C'est énorme.
Bon. Oui. Alors là, on demande beaucoup d'argent. Mais c'est ça, quel financement est demandé? Qui va devoir payer ça?
Ben, c'est ça. Donc, c'est là que, en fait, Tennis Canada, s'ils payaient pour leur stade, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Là,
ouais.
Peut-être pas exactement ce qu'ils veulent, parce qu'on pourrait en parler, mais il y a des gens de Parc Extension qui sont pas trop heureux du projet. Mais ça, c'est une autre dimension de ce projet. Mais pour le financement, il prévoyait 90 % de fonds publics. Donc, ça fait environ 360 millions d'investissements par nos gouvernements, 40 % par le fédéral, la même chose par le provincial, et puis un 10 % par la ville de Montréal. C'est un investissement énorme. Pour comparer à Cincinnati, on vient de terminer en 2025 un nouveau stade pour le tournoi de tennis, qui est aussi un Masters 1000, au coût en dollars canadiens de 360 millions. Et puis le public qui a injecté 49 %, donc un peu plus de 50 % a été payé par le privé. Alors que chez nous, on demande 90 % de fonds publics. Là, puis on connaît un peu l'état de nos finances publiques puis les besoins qu'on a dans toutes sortes d'infrastructures. Là, qui sont...
Bien, notamment le logement social où on a de la difficulté à en construire puis il manque d'argent pour le faire. Moi, je peux juste imaginer qu'avec 400 millions, on pourrait en faire des appartements pour les personnes dans le besoin, là.
On pourrait en faire ou réparer des conduites d'eau.
Oui, en effet.
les écoles, les hôpitaux, la liste est longue. Comme vous dites, le logement également. Donc, consacrer 360 millions là, d'argent public à ça, c'est un peu indécent. Parce que surtout, il ne faut pas se méprendre. Là. Souvent, on nous fait croire qu'il y a des retombées et tout, mais il ne faut pas se méprendre. Ceux qui gagnent là-dedans, ce sont les joueurs de tennis. Là. C'est le public qui finance les bourses des joueurs de tennis. Les joueurs de tennis viennent jouer ici, mais ils font un peu un cadeau à la population de Montréal ou aux spectateurs. Là. Les billets ne sont pas donnés. Il faut les acheter, il faut les payer. Si on les regarde à la télé, c'est la même chose. On a un abonnement au câble. On le paye, cet abonnement-là. On regarde les publicités. Donc, vraiment, c'est subventionner l'industrie du tennis professionnel. C'est essentiellement ça. Puis la plupart des joueurs de tennis sont étrangers. Donc, en fait, ça vient à subventionner des joueurs, des travailleurs étrangers, là, des joueurs de tennis qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est vraiment... Moi, je trouve que le financement du sport professionnel, c'est toujours la même chose. On vient avec ça, on va perdre notre événement, les retombées pour la ville et tout. Non, c'est pas ça. C'est pas une aubaine pour la Montréal ou le Québec ou le Canada de donner 360 millions à des joueurs de tennis professionnels. On en gagne très peu là-dessus. On nous en revient pas beaucoup.
Oui, parce que tu sais, on semble dire que ben, les restaurateurs, les hôteliers, etc., vont faire des affaires d'art. Est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Ben, il faut regarder, quand on regardait, les retombées sont estimées à peu près à 40 millions. Puis là je vous dis 40 millions, là, puis malheureusement, j'ai essayé de retrouver l'étude, là, j'ai pas le détail, là, mais c'est clairement exagéré. Un, il faut regarder, mais c'est les dépenses par les spectateurs qui viennent de l'étranger, en dehors de la juridiction. Si vous habitez Montréal, vous achetez des billets pour aller voir le tennis, si vous ne faites pas ça, vous allez aller manger au restaurant ou aller au théâtre ou vous allez faire d'autres choses avec cet argent. Donc, ce n'est pas de l'argent en neuf. Donc, un, il faut regarder, par exemple, si un Américain qui vient. Bon, là, il y a un gain. Alors, supposons que notre Américain dépense 3 000 $ avec sa famille à Montréal pendant un week-end, puis il va voir du tennis. Là, on dit, bien, il y a une retombée de 3 000 $ pour cette famille américaine. Mais la vraie retombée, c'est pas 3 000 $ L'Américain, il a consommé, par exemple, des bouteilles de vin au restaurant. Bien, si le coût de la bouteille de vin est 100 $ l'économie du Québec n'a pas un bénéfice de 100 $ parce qu'elle a perdu une bouteille de vin. Donc, le vrai bénéfice, c'est juste la différence entre le coût de la bouteille et la dépense. Mmh. C'est la même chose pour toutes les dépenses dans les hôtels, puis tout ça. Puis souvent, on regarde la dépense brute, mais le gain, c'est qu'il faut soustraire le coût des ressources consacrées à ces touristes étrangers. Mmh. Puis ça, on le fait rarement. L'autre aspect, c'est que supposons, là, on ne sait pas qui va gagner le tournoi, puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Canadiens qui restent, il n'y en a pas. Et supposons que c'était Shelton qui gagnait le tournoi, c'est un Américain, puis là, il y a une bourse, je pense que c'est 1 ou 2 millions. Supposons qu'il y avait une bourse de 2 millions. Est-ce qu'on... Ça, ce 2 millions-là, il a été financé par des Québécois. Qu'est-ce qu'il va faire Shelton avec le 2 millions? Il va l'amener aux États-Unis. Il va en payer une petite partie d'impôts ici, mais le reste, cet argent-là, je ne pense pas qu'il place son argent dans l'économie québécoise. Il est américain, il va ramener l'argent chez lui. Ça, c'est de l'argent des Québécois qui sont partis aux États-Unis, donc c'est une retombée négative. Souvent, on ne la compte pas, cette retombée négative-là. Alors, tout ça pour dire que le calcul des retombées économiques, en général, est très... il nous donne pas grand-chose, de très peu informatif, parce que les calculs sont faits pour... un peu justifié dans l'événement. Là.
C'est des études un peu, comment je pourrais dire, biaisées, parce qu'on pose les questions auxquelles on veut avoir des réponses et non pas les questions auxquelles on ne veut pas avoir de réponses.
Non, c'est ça. Il y a quand même une méthode. La méthodologie s'est grandement améliorée, disons, depuis le temps où j'étais étudiant, puis je me souviens à l'époque, j'avais un cours d'analyse coût-bénéfice, puis on regardait ça, ces questions-là de retombées économiques, puis c'était épouvantable ce qu'ils mettaient là-dedans. Ouais. C'est resserré un peu, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore arrivé au point où on estime le vrai, véritable gain net pour la société. Donc, est-ce qu'on veut mettre 400 millions ou 360 millions là-dedans? Moi, je ne crois pas. Souvent, on parle de la réputation de la ville de Montréal. Ville de Montréal, on le voit, les gens vont voir en Europe, ils regardent le tournoi, ils voient Montréal à la télé, ils vont tous venir ici pour visiter. L'exemple que je donnais à mes étudiants, j'ai dit « Green Bay a déjà gagné le Super Bowl, avez-vous le goût d'aller en vacances à Green Bay? » Ou d'aller voir, vous voyez le Grand Prix du Bahreïn, est-ce qu'on se lance tous à acheter des billets d'avion pour aller voir, aller visiter le Bahreïn? Bof. Poser la question, comme on dit, c'est un peu y répondre.
Ouais, il va peut-être falloir un jour s'asseoir comme société, de se poser la question concrètement. Là. Est-ce que ce sont les retombées ou c'est plutôt parce qu'on va avoir un gros événement chez nous puis c'est bon pour l'orgueil, peut-être?
Hein? Non, c'est ça. C'est bon pour l'orgueil collectif qu'on le dise. Bien, voici, là, la société, on met 360 millions puis là-dessus, probablement que les pertes vont s'élever à 325 millions. Pour le stade, êtes-vous prêt? Est-ce que votre orgueil, puis tout ce que vous en retirez là, de la fierté que vous avez d'avoir un tournoi à Montréal, est-ce que ça vaut 300, 325 millions? Je pense que c'est la bonne façon de faire. Puis si on dit oui, bien, OK, faisons-le, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y a peut-être d'autres endroits où le gouvernement peut investir avec des retombées sociales pas mal plus importantes.
Bon. Bien, on va quitter les retombées économiques des grands événements sportifs pour parler de des choses qui nous joignent tous les jours. Hein. Le prix du pétrole qui repart à la hausse avec la guerre en Iran.
Ben oui, si on suit l'actualité un petit peu, là, à chaque jour, on se rend compte, l'Iran dit une chose, Trump dit son contraire, le lendemain, l'Iran contredit le président, puis ça n'arrête pas, puis on n'a aucune idée, le président dit, les négociations vont bien, les Iraniens disent, on négocie avec personne, puis je veux dire, mais en même temps, la guerre ne se règle pas, il n'y a pas plus de bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz, puis là, je pense que les marchés commencent à réaliser qu'on n'est peut-être pas proche de la fin de ce malheureux conflit. Et puis le prix du pétrole est reparti à la hausse. On était au début de la guerre, on était monté au-delà de 115 ou 120 $ pour le baril. Puis là, récemment, il était plus à 70, 72. On avait l'impression que ça va se régler. Mais là, ce matin, il était reparti. Si je fais une mise à jour de ma page, là, la dernière fois que j'ai regardé, c'était autour de 85. Là, même là, c'est sur 87. Donc ça veut dire que les prix à la pompe vont probablement augmenter un peu. Donc ce conflit-là continue de peser sur la vie de milliards d'êtres humains, là, parce que nous, on a nos pompes qui en témoignent, mais c'est la même chose un peu partout dans le monde, le coût de l'énergie qui augmente. C'est un beau gâchis, cette guerre, qui n'a pas l'air de donner grand-chose.
Oui, puis je pense qu'on va peut-être avoir à attendre jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis là, pour voir s'il y aura un frein qui va être mis aux ambitions de Donald Trump. Mais là, bon, ça, c'est
ouais, effectivement, on le souhaite, là, ça va être...
Pour le bien de la planète et de l'humanité. Bon.
Non, exactement, puis même pour notre morale.
Oui. puis on peut parler de création d'emplois au Canada en juillet, 75 000 emplois.
Oui, il y a eu l'annonce en fait a été faite, je crois, jeudi dernier. Au Canada, on a créé 75 000 nouveaux emplois au mois de juillet. Le taux de chômage est passé de 6,6 à 6,4. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, je pense que c'est le deuxième ou troisième mois consécutif que le taux de chômage baisse au Canada. Peut-être l'ironie de toute la chose, c'est qu'à peu près en même temps, on a fait une annonce semblable aux États-Unis, mais on avait une perte de 23 000 emplois. Et ça, malgré que le taux de chômage a baissé marginalement de 4,2 à 4,1 pour les États-Unis. 23 000 emplois, ceci étant dit, c'est pas un gros chiffre pour les États-Unis. Là. Dans un bon mois, on pourrait créer 800 000 emplois. Donc, en perdre 23 000... c'est pas une catastrophe. Les États-Unis sont pas en récession, mais c'est le signe moins devant le chiffre là, qui est un peu ironique. Alors qu'on nous a imposé des tarifs pour rapatrier les emplois manufacturiers vers les États-Unis, là pour le mois de juillet du moins, c'est les États-Unis qui ont perdu des emplois, alors qu'au Canada, on en a créé. Donc l'économie canadienne, jusqu'à maintenant, semble résister assez bien aux tarifs de Trump. Évidemment, là, c'est un ou deux mois, il ne faut pas présager du long terme, mais il faut quand même le mentionner que ça va pas si mal. Au Québec, on a créé 700 emplois. C'est pas énorme, mais encore une fois, c'est quand même une création. Par contre, le taux de chômage a augmenté un petit peu de 5,4 à 5,6.
Ouais, et dans les deux cas, là, parce que je voulais préciser pour les gens qui ne comprennent pas, le fait qu'aux États-Unis, on a une perte de 23 000 emplois, mais le taux de chômage a baissé, c'est que souvent, c'est des enquêtes qui sont faites sur les gens qui disent à la recherche d'un emploi, et ça se peut qu'il y a des gens qui aient complètement débarqué du marché de l'emploi, qui fait que ça joue un peu, là, c'est ce genre de statistiques-là.
Exactement. Non, vous avez tout à fait raison. Donc, on regarde le taux de chômage, c'est pas la population en âge de travailler. Les emplois sur la population en âge de travailler, c'est sûr la population qui se cherche, ou c'est ceux qui n'ont pas de travail puis qui s'en cherchent sur la population de travailleurs et tout. Puis la même chose au Québec, on a créé des emplois, mais le taux de chômage a augmenté un peu. Donc, ça veut dire que c'est peut-être l'effet inverse. C'est que là, des gens qui avaient arrêté de chercher, ils se rendent compte que l'économie va un peu mieux, puis ils se mettent à la recherche d'un emploi. À court terme, ça fait augmenter le taux de chômage malgré la création d'emplois.
Ah, c'est ce qui arrive avec la mémoire de mes cours de journalisme des années 80. On avait quand même une formation en économie, puis on disait toujours « Faites attention au taux de chômage. C'est pas aussi significatif que vous le pensez. Il y a des bémols. » Et là, ça explique le tout.
Il faut regarder sur un taux. Alors, il faut regarder le numérateur, puis le dénominateur, puis bien les comprendre.
Exactement. Michel Poitvin, c'est toujours un plaisir de travailler avec vous. On se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.